Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'écouter Meet the Dev. Je suis Franck, level designer dans l'industrie du jeu vidéo, et j'ai décidé pour vous, et avec vous, de discuter avec d'autres développeurs de jeux de tous les horizons. Dans Meet the Dev, la parole est donnée aux indépendants, comme aux salariés de grosses entreprises, aux juniors, comme aux vétérans. Tout le monde a sa propre histoire, et nous allons donc discuter avec nos invités de leur carrière, de leurs avis sur l'état de l'industrie, de leur réussite, mais aussi de leurs échecs, ainsi que de ce qui leur tient à cœur dans leur travail. Bienvenue dans Meet the Dev. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'accueil qui a été fait au premier épisode de Meet the Dev. Vous avez été près de 400 à écouter ce podcast, qui est énorme pour un premier épisode. Merci encore. Merci à Martin de m'avoir bien voulu participer à ce premier épisode. Et merci aux futurs invités. Merci à eux, merci à vous pour ce qui vient d'être lancé avec ce podcast. L'engouement est appréciable. Alors, pour ce deuxième épisode, je reçois Émilie Rina, qui est concept artiste chez The Creative Assembly. On va parler avec elle, évidemment, de sa carrière, mais vous allez voir qu'on va aussi discuter des pièges et des facettes un peu cachées du métier de concept artiste, qui pourraient parfois amener les gens qui voudraient se lancer dedans à certaines désillusions. Allez, c'est parti! Alors, on commence cette interview avec Émilie Rina. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Donc tu es concept Franck. Artiste Pardon. Chez The Creative Assembly. Donc on va parler avec toi de ta carrière et un peu des petits secrets du freelance en concept art. Donc Émilie, on va commencer cette interview avec trois questions. Alors ce sont ces trois grosses questions. La première, qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu?
Alors, donc je m'appelle Émilie Rina, comme ça a été dit. Je suis française, née en Guadeloupe, qui est une petite île perdue dans la Caraïbe, centre-Amérique. Et je suis concept artiste à Creative Assembly, qui est un studio de jeux vidéo basé à Horsham, en Angleterre.
Est-ce que c'est une ville perdue en plein milieu de la Pampa?
Ouais, c'est exactement ça.
Comme toutes les entreprises en Angleterre, j'ai l'impression.
Oui et non. Si on a la chance d'être autour de Londres, ça va. Mais moi, je suis juste entre Londres et Brighton, pour ceux qui connaissent. Et ouais, j'avoue, c'est un petit village paumé. Enfin bref, je vais pas me plaindre parce que je fais que ça tous les jours. Donc.
D'où viens-tu? On va faire la partie d'où viens-tu de la question. Alors d'où viens-tu? Ça va commencer par comment t'es rentré dans l'industrie. D'où te vient le goût pour l'industrie et quelle a été ta première expérience? Comment t'es rentré dans l'industrie déjà?
Comment je suis rentré dans l'industrie? Alors moi,
est-ce
j'ai
que t'as
toujours
fait une
été.
formation particulière pour en arriver là?
Ok. Alors je vais faire la version courte parce que c'est super long sinon. Mais bon, moi, je joue depuis que je suis gamine. J'ai eu la chance d'être introduite aux jeux vidéo par ma mère en fait, grâce à la Nintendo. Et bon voilà, j'ai joué toute mon enfance. J'ai un peu perdu. Enfin, j'ai toujours eu envie de travailler dans le jeu vidéo. Le truc, c'est que, alors, je parais pas, mais je suis assez vieille. C'est que à l'époque, moi, je savais pas du tout comment rentrer là-dedans. Et puis, bon, t'as les conseillers à l'école qui te disent, bon, faut que tu sois bonne en maths pour faire du jeu vidéo. C'est pas vrai, c'est faux. Mais bon, ça, je l'ai appris bien plus tard. Et au fil de mes études, j'ai dérivé à un moment. Pour faire des études d'art contemporain. Par là, j'ai rencontré énormément de gens, il y a eu énormément d'événements, donc je ne vais pas parler maintenant parce que ça va être super long. Et à la fin de mon diplôme d'art plastique, d'art contemporain, j'ai postulé, enfin pendant mes études, je travaillais sur mon portfolio à côté de mon diplôme qui n'avait rien à voir. Et j'ai postulé pour un stage dans une entreprise, un studio indépendant à Paris. Et un mois après, j'ai une réponse et c'était le début de tous les débuts, quoi.
Alors du coup, quand même, je veux revenir. C'était quoi comme formation, si tu peux nous dire?
Alors ma formation, donc l'art contemporain. Alors comment expliquer ça?
Est-ce que c'est ce qu'on peut résumer globalement par de l'art plastique?
Alors non, je dirais que non. Et oui, en même temps, c'est un peu bizarre parce que c'est un mix de pas mal de choses. Enfin, on te fait toucher à énormément de médiums. Bon, la vidéo, l'animation, la BD. Moi, j'étais à Poitiers, à l'École européenne supérieure de l'image Poitiers, qui est un site aussi à Angoulême. Hein, du coup, j'étais dans cette école. Et moi, j'étais spécialisée installation. Ma vision de l'installation, qui est assez restrictive, c'est la création d'environnements, de sculptures, de pièces en fait dans lesquelles
D'accord.
on peut s'immerger. C'était ma vision de
D'accord.
l'installation quand j'ai passé mon diplôme. Du coup, on va dire que c'est assez abstrait. Moi, j'étais à fond dans l'art abstrait. J'ai passé mon diplôme là-dessus. Mais l'art contemporain, ça englobe énormément de choses, hein, la photographie, la vidéo, la sculpture, le dessin. Enfin, peu importe, tous les médiums peuvent être conviés. C'est surtout, en fait, l'art contemporain, c'est surtout basé sur un sujet que toi tu développes, peu importe le médium que tu choisis. Tu pars d'une certaine idée et tu développes. C'est super abstrait à expliquer, c'est un peu dur. Et si t'es pas familier avec le sujet, je pense que l'image que tous les gens ont, c'est un carré blanc sur fond blanc. Voilà. Voilà.
C'est quand même totalement à l'opposé de ce que tu vas faire après.
Clairement, oui. Clairement. C'est un peu bizarre. Juste pour en parler brièvement, c'est que moi, dans mon école, en fait, donc l'école européenne supérieure de l'image est divisée en deux écoles, Angoulême et Poitiers. Angoulême, ça a peut-être changé, hein. Mais à l'époque, Angoulême, c'était très axé BD, illustration, etc. Quand Poitiers était très axé art numérique. Vidéo, etc. Et en fait, moi j'étais dans l'année cobaye où j'ai eu un prof formidable, Hervé Joly, qui a essayé d'intégrer le jeu vidéo dans notre cursus. C'était à l'époque où il y avait cette grande question, est-ce que le jeu vidéo est de l'art? Et du coup, il a intégré ce cursus en fait à notre cursus. Et on a pu développer des projets de jeux vidéo, mais très liés à l'art contemporain. Comment utiliser le jeu vidéo en fait dans l'art contemporain pour faire passer des messages, quoi que ce soit.
Ouais,
Du coup, on a fait
d'accord.
des workshops avec l'Engimine, etc. Enfin bref, voilà, ça s'est étendu et depuis ça a vachement évolué. C'est vraiment génial pour l'école, hein, parce que c'est une perspective qui est vraiment très sympa à aborder du point de vue de l'art. Voilà, donc en fait, ça m'a aussi pas mal aidé ensuite à transitionner vers le jeu vidéo, le concept art,
D'accord.
etc.
Et du coup, ce que tu me disais avant qu'on enregistre, c'est que tu as aussi participé à des projets avec l'Engmin.
À un moment, on a eu donc un workshop avec l'Engimine. Donc, on se mélangeait avec quelques étudiants de l'Engimine et on devait créer un jeu. Je crois qu'on appelle ça des GN ou des grandeurs nature, je sais
Ouais.
plus. Mais bon, voilà, des jeux outdoor, dehors,
En extérieur.
voilà, en extérieur, voilà, qui avait une expérience de jeu de 15 minutes. Du coup, moi, ça a été ma
D'accord.
première implication
Expérience
dans
avec le
la.
jeu, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Et de voir comment je peux travailler avec une team. Enfin, on était avec des game designers, des producteurs, des programmeurs, etc. Et moi, j'étais l'artiste dans la team. Et c'était génial, j'ai rencontré des gens formidables avec qui je suis toujours pote.
Alors tiens, je suis curieux, un artiste sur un GN, qu'est-ce que ça fait?
Moi, je faisais les schémas explicatifs quand on avait besoin de visuels, etc. Moi, comme j'étais énormément dans l'installation, j'adore créer, enfin construire des choses physiques, tangibles. Du coup, nous, notre jeu, il y avait énormément d'objets en fait qu'on devait collecter. Il y a une espèce d'île en fait à Angoulême, c'est là que ça s'est passé, qui était notre terrain de jeu. Et du coup, on avait des items en fait cachés, c'était un peu un puzzle game, enquête, etc. Du coup, on avait des items cachés en fait dans l'île hein, et tu devais écouter des trucs en scannant des QR codes et tout, enfin bref, pour
Ok,
retrouver
cool.
ces objets. Et du coup, moi j'étais responsable de la création de ces objets, de la création de la map
D'accord.
aussi. Voilà.
Ça,
C'était moi.
c'est le côté art contemporain, art appliqué.
Je sens beaucoup d'ironie dans cette question, et je fais semblant de
Non,
ne pas
évidemment, je
entendre.
t'embête.
Oui, on va dire oui. Bon, après les autres, ils savaient pas le faire.
D'accord.
Enfin, c'était des game designers. Enfin, ils savent pas dessiner, ils savent pas. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était mon rôle.
Donc, du coup, c'est en parallèle de tout ça que tu construis ton portfolio de concept art. Donc, qui sera encore un autre élément qui est totalement différent de ce que tu exposes là.
Ouais, clairement.
Donc là,
Donc
à
à
ce
partir
moment-là,
de...
tu sais que tu veux faire du concept art. Ou est-ce que c'est un objectif qui vient comme ça, c'est quelque chose qui arrive tout seul?
Non, à ce point-là, je sais que je veux faire du concept art. À l'époque, je crois que le mot concept art, ça n'existait pas vraiment. C'était vraiment au début où... En fait, le concept art,
Oh là là, mais
ça...
tu nous parles de quelle époque?
Non, alors attention, le concept art en tant qu'il existe aujourd'hui a toujours existé. Le truc c'est que ça a évolué, c'était pas tout le temps sous le même nom en fait. C'était artiste ou illustrateur, etc. Et le problème c'est qu'on
D'accord.
fait pas le même boulot que les illustrateurs. Du coup en fait la branche concept art c'est pas s'est créée mais enfin on a mis un vrai nom dessus qui à mon avis va encore évoluer dans les prochaines années parce que ça change énormément. Et donc en fait c'était un peu le gros boom au moment où je me suis intéressée au concept art c'était un peu le gros boom où en fait les concept artistes dans les jeux vidéo commençaient à en parler sur les forums sur YouTube etc. C'était aussi avec l'avancée d'Internet tu sais enfin la propagation de enfin c'est facile d'accéder à l'information mais aussi facile de la donner. Du coup moi j'ai commencé vraiment dans cette période-là. Le truc c'est que je savais que je voulais travailler dans le jeu vidéo, mais je savais pas, je me disais game designer ou quoi que ce soit. Le workshop avec Lenjimin, ça m'a aidé à trouver une direction et je me suis dit, attends, je suis en école d'art. À ce moment-là, je savais à peine dessiner, hein, parce que moi, le truc c'est que j'étais en école d'art, t'as pas besoin de savoir dessiner quand t'es en école d'art, parce que tu peux utiliser d'autres médias. Moi, je faisais de la photo, de la vidéo, de l'installation. Et je me suis dit, ok, alors je vais me servir en fait de mon école pour apprendre à dessiner et construire un portfolio parce que moi j'adore créer des mondes, etc. Et je me dis, ça serait génial d'avoir ça, enfin de pouvoir réaliser des images en 2D qui communiquent cette idée, sachant que je peux pas faire de l'installation par exemple pour un jeu vidéo. Enfin, si je pourrais, mais disons que pour ce que je fais maintenant, ça marche pas. Du coup voilà, c'est comme ça que je me suis dirigée vers la 2D. J'ai appris à dessiner là-bas et du coup j'ai commencé à créer ce portfolio petit à petit qui quand je regarde qui est horrible hein, mais qui m'a permis de décrocher au moins un stage. Voilà.
Alors justement, pendant que tu crées ton portfolio, comme t'es pas trop dans le milieu du jeu vidéo, on va dire encore à ce moment-là, je me doute que, enfin, j'imagine que ton réseau était pas non plus très solide ou très large dans le milieu du jeu vidéo, dans le milieu du concept art. Comment est-ce que tu fais ou est-ce que tu le fais? Est-ce que tu récupères du feedback sur ton travail alors que t'es pas forcément complètement plongé dans ce milieu-là?
Alors, c'est une bonne question. À l'époque, il y avait du coup des forums digital painting, très très vagues hein, pour les illustrateurs, etc. Et du coup, c'est là que je montrais mon travail, enfin ce que je faisais à des gens qui étaient bien plus doués que moi. Et du coup, il y avait cette personne, son pseudo c'est Asahi. Je crois que c'est Pierre Raveneau qui est maintenant art directeur à Ubisoft, je sais plus Halifax quelque chose comme ça. Et
Il est parti s'isoler.
il est parti s'isoler, oui. Il a fait différents studios, hein, mais maintenant c'est là qu'il travaille. Et je me souviens que j'adorais son travail et lui il faisait partie de ce forum. Et du coup, quand on postait, parfois il donnait des feedbacks, etc. Il était déjà très bon à l'époque. Et du coup, en fait, c'est là que je trouvais du feedback pour ce que je faisais. Lui, il travaillait pas encore dans le jeu vidéo à l'époque, et on était énormément à pas travailler dans le jeu vidéo, mais on était une communauté d'artistes. Et certains étaient intéressés par le concept art, etc. Du coup, il y avait cette partie forum où je récupérais mon feedback, et il y avait aussi toutes les informations que je pouvais trouver via YouTube. Du coup, que je récupérais aussi pour comprendre en fait qu'est-ce que c'est qu'un concept artiste, parce que c'était super difficile de comprendre en fait. Est-ce que tu fais juste tu fais que dessiner? Enfin, c'est quoi la différence avec Illustrator? Enfin, voilà. Du coup, c'est là que je récupérais toutes mes infos et au fur et à mesure des années que Internet, etc., a évolué et qu'on a maintenant, enfin que maintenant tout se trouve sur Internet, bon ben, ça. Voilà, je me suis servi de tous ces outils, en fait, du coup, pour comprendre dans quoi je me jetais. Et plus tard, mais là, c'est quand j'ai décroché mon stage, plus tard, il y a des événements, en fait, autour de l'industrie qui sont nés.
Parle du mix, de la GDC, genre de choses.
Alors, ouais, alors la GDC, c'est un très bon exemple. Alors, bon, j'y ai jamais assisté parce que, bon, c'est super loin et c'est cher. Quand tu travailles pas, c'est un peu compliqué. Mais en effet, ouais, la GDC, il y avait des talks vraiment géniaux. Et ça, je recommande pour n'importe qui dans l'industrie. Hein. D'ailleurs, c'est pas que pour les concept artistes. Mais il y a la JDC Vault, j'imagine que tu connais, où il y a énormément de contenu gratuit. Où les gens parlent du développement de jeux vidéo, etc., art direction, game design, etc. Et ouais, tout le monde en fait devrait regarder ça parce que c'est ce qui se passe bah, maintenant quoi. Et comment les choses évoluent. Du coup, ça c'est une source d'infos inimaginable. Je recommande ce channel. Et du coup, oui, alors la GDC, c'est un événement qui est vraiment pour les game developers dans le sens large. Et
Toi,
il
t'as
y a
focus
d'autres
peut-être plus
événements, en
sur des
fait,
trucs art.
voilà, il y a d'autres événements qui sont plus centrés sur la partie art, que ce soit que tu viennes du jeu vidéo ou du film,
Tu
ou
peux nous
même.
donner des noms?
Ouais, bien sûr. Alors, il y en a un. Alors, vu qu'on est dans un podcast français, il y en a un qui était bah, le premier que j'ai auquel j'ai été. S'appelle IAMAG. Je donnerai le lien. Tu pourras le mettre dans la description. Qui se passe à Paris chaque année. Et je crois que là, ils sont sur la 4e ou 5e édition. Et du coup, c'est un événement organisé par Patrice Lemary et il invite énormément d'artistes du monde entier, qu'ils soient dans l'illustration, dans le film, dans le jeu vidéo, VFX, peu importe. Ils viennent donner des conférences. C'est vraiment le parfait endroit pour apprendre des gens qui sont déjà au top niveau dans l'industrie, mais aussi le parfait endroit pour rencontrer des gens qui font la même chose que toi, qui sont moins bons que toi, au même niveau ou meilleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. En fait, je vois énormément d'artistes qui travaillent depuis leur cave et qui parlent à personne, etc. Le problème, c'est que dans cette industrie, ça marche énormément par networking, et je suis sûre que tu le sais. Plus tu connais de gens, et mieux c'est. Bon, alors, bien sûr, enfin, plus tu connais de gens, et plus tu es une personne géniale, et plus facile c'est pour toi ensuite de trouver un boulot. Et du coup, c'est super important de connecter avec les gens. De montrer son travail. Enfin, bon, moi je suis une addict des events, du coup j'en suis allée à pas mal. Il y en a du coup IAMAG à Paris que je recommande. La prochaine édition est en mars prochain. Il y a Industry Workshop à Londres chaque année aussi. Tous ces événements, généralement, ils sont des événements annuels. Il y a Promised Land qui est organisé par CD Projekt Red à Łódź. Ça se prononce Łódź, mais ça s'écrit Lodz.
C'est en Pologne?
Ouais, c'est en Pologne,
Pas
ouais. C'est
étonnant
génial.
alors.
Bah là, j'en reviens d'un qui était aux Pays-Bas, qui s'appelle Playground. Il y en a un autre qui était au Portugal et maintenant qui est à Malte, qui s'appelle Trojan Horse with a Unicorn. Il fait toujours rire ce nom. Mais voilà, il y en a tout plein et je les listerai parce qu'ils sont géniaux. Alors, vous n'avez pas besoin enfin, pas besoin d'aller à tous, mais au moins aller à un, ça vous ouvrira énormément de portes. Je recommande énormément.
Quand tu vas dans un de ces events, est-ce que tu mets les pieds sous la table ou est-ce que tu y vas avec un book imprimé ou peut-être une tablette sur lequel tu peux montrer tes illustrations, quelque chose comme ça?
Ouais, alors, il y en a qui imprime. Personnellement, moi je suis pas fan parce que les couleurs elles sont jamais géniales. surtout pour un travail qui est digital en fait. Du coup, ouais, je recommande énormément d'investir dans une tablette pour ça, parce que montrer son portfolio sur un téléphone, c'est
Ok.
vraiment horrible.
Ouais, il faut avoir un très gros téléphone.
Ouais, voilà, faut avoir un très grand téléphone. Mais ouais, une tablette de taille médium pour montrer son portfolio, c'est le must.
Et du coup, est-ce que c'est avec ces events que tu vas décrocher ton premier stage
Alors
ou pas
non,
du tout?
non. Moi, mon premier stage, je l'ai décroché. Enfin, il y en a, hein, y en a qui ont décroché des stages, des jobs, etc. Parce que généralement, dans ces events, bon, il y a le côté conférence, il y a le côté networking, etc. Mais il y a aussi généralement énormément de grosses compagnies qui recrutent, qui font des portfolio review. Et du coup, c'est le moment en fait d'avoir un contact physique réel avec eux, en fait, de passer la barrière de l'interview par Skype et d'être vraiment là, de montrer qui tu es. How cool you are, comment on dit ça en français? Montrer à quel point t'es génial, et ton portfolio, tout ça en physique, c'est un énorme plus pour ceux qui n'ont pas encore décroché leur premier job. Bon, quand vous postulez, vous atterrissez sur une liste en fait de portfolio, et il y a votre nom, votre website, et j'en clique, etc. Et c'est assez froid, hein. Et d'ailleurs, petite note, généralement, c'est assez triste, mais généralement, on passe moins d'une minute sur un portfolio. Du coup,
Ouais, ça
ça va. Ouais.
c'est une règle internationale, je
C'est
pense.
ça. Du coup, ça va super vite, alors que quand vous allez à un event comme ça et vous avez un portfolio review, vous avez au moins 10 minutes. Avec le recruteur, et ça peut être des gens des ressources humaines, mais ça peut être aussi les concept artistes directement, leur directeur, etc. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez briller, quoi. Et le truc, c'est que oui, on recherche des portfolios, enfin, généralement, les studios recherchent des portfolios qui déchirent, mais on recherche aussi des personnes qui sont cool à travailler avec, en fait. On recherche aussi des personnalités qui sont, voilà, avec qui on voudrait travailler. Et c'est le parfait moment pour montrer ça. Et c'est ce que généralement on n'a pas quand on postule via un site web d'entreprise, quoi.
Alors du coup, si tu veux bien, on va repasser sur les conférences juste après, mais d'abord, je voudrais entendre l'histoire de comment tu as eu ce premier stage, du coup, parce que là, c'est là où tu vas mettre vraiment le premier pied dans l'industrie.
Alors du coup, oui, alors je travaillais sur mon portfolio. Le truc, c'est que moi, j'avais déjà avalé pas mal de vidéos, la JDC, etc. Du coup, j'avais une meilleure compréhension de ce qu'un concept artiste doit faire, qui est généralement une petite désillusion pour les gens qui ont envie de mettre le pied dedans, parce que mon portfolio, je me suis vraiment concentrée sur le fait que, ok, je produis une image. Et je donne le maximum d'informations possibles, parce que je sais que je vais travailler avec une team et il y a quelqu'un qui va devoir construire ou animer ce que je fais. Et du coup, j'ai fait mon maximum pour montrer ça dans mon portfolio. Et même si j'étais pas la meilleure peintre au monde ou quoi que ce soit, il y avait via mon portfolio, on pouvait comprendre que je comprenais comment ça se passe, le pipeline d'un jeu vidéo, ce qu'on va me demander de faire. Et aussi ma force de proposition en fait. Du coup, je pense que c'est ça qui m'a aidé à avoir un portfolio, parce que avoir un stage, parce que j'étais clairement pas la meilleure peintre, je faisais pas les meilleurs rendus ou quoi que ce soit, mais j'avais une compréhension du pipeline. Du coup, les gens, quand ils voyaient mon portfolio, ils se disaient, ok, on peut travailler avec, parce que elle a une compréhension du pipeline. Du coup, voilà, ça c'était mon portfolio. J'ai envoyé, j'ai postulé à beaucoup d'annonces sur la FJV. J'utilisais aussi énormément les réseaux sociaux. Bon, là en particulier LinkedIn, et je me souviens que j'avais envoyé un message à la personne qui est devenue mon lead par la suite. Sur LinkedIn, j'avais envoyé un message en lui disant salut, je recherche un stage tant de mois, voici mon portfolio. Et voilà, je lui ai aussi. Parce que, enfin, c'est pas que je stalke les gens, mais bon, quand tu postules quelque part, t'as besoin de stalker les gens, hein, savoir ce qu'ils font pour savoir si ton portfolio est adapté ou pas à ce qu'ils veulent. Et du coup, bon, moi je connaissais son portfolio, il avait travaillé sur Remember Me, un Dontnode. Du coup, ça c'est aussi une indication de savoir quel genre de projet, sur quel genre de projet les studios travaillent, si jamais le projet n'est pas annoncé. Du coup, moi je lui avais envoyé ça, et un mois après, j'ai une réponse où il me dit, est-ce que tu es dis toujours disponible? Et voilà, c'était le début de tout.
Magnifique.
J'ai été super chanceuse, hein, parce que c'était vraiment le bon timing avec la fin de mon diplôme. début de période de stage, enfin bref.
Et du coup, derrière, embauche ou alors t'as changé?
Alors, du coup, stage de 6 mois dans ce studio à Nova Quark à Paris.
D'accord.
CDD de, je me souviens plus si c'était 3 mois ou 6 mois. Je crois que c'est oui, CDD de 3 mois, puis un autre CDD de 3 mois, et après des illusions parce que moi je m'attendais à avoir un CDI parce que on va dire que c'est comme ça que ça se profilait. Je crois que beaucoup d'artistes dans la boîte ont eu une petite désillusion. Bon, ça m'a quand même fait un total de 1 an à Nova Quark. Et avant, du coup, que je termine ce dernier CDD, je me fais contacter pour du boulot en freelance. Et c'était juste incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Toujours via LinkedIn. Si vous n'utilisez pas LinkedIn, bah, vous devriez. Twitter aussi, d'ailleurs. Je me fais contacter donc par l'art directeur, le directeur artistique, pardon, de Boski.
D'accord, pas mal.
Ouais, j'y croyais pas, hein. Je me disais, mais en fait, il s'est trompé de
Qui t'a
personne.
trouvé comment?
Bah, il m'a trouvé via LinkedIn.
D'accord, mais il a vu ton
Il m'a envoyé
portfolio
un
ou un truc comme
message.
ça? Est-ce que t'as un site ou un ArtStation ou...
Oui, alors j'avais toujours eu un site, ArtStation, je crois, je suis pas sûre que ça existait à l'époque. Dans cette année-là, je ne suis pas sûre. Mais j'avais clairement un portfolio en ligne. Ayez toujours un portfolio en ligne et à jour. Je sais pas, je ne lui ai pas demandé, mais bon, en tout cas, il m'a contacté via LinkedIn avec un message très direct. Salut, je recrute des freelancers. Est-ce que tu es dispo? Là, je me dis, ok, alors j'ai aucune idée de comment le freelance ça se passe. Je suis encore en emploi, du coup, est-ce que je peux manager mon temps pour travailler, etc. Du coup, voilà. Pendant que je finissais mon boulot à Nova Quark, bah, je travaillais déjà en freelance avec eux. Et ça a été une expérience vraiment géniale. Mais ouais, j'ai été super chanceuse et ça a été le parfait timing.
Qu'est-ce qu'ils te demandent? Du coup, tu travailles sur leurs différents concepts, tu fais du concept alors tu fais du concept art pour leur concept de jeu, ou alors tu es directement sur leur projet le Breakers. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils te demandent?
Alors, quand ils me contactent, je crois que le premier trailer n'était pas encore sorti, mais ils avaient déjà une grosse base. Enfin, ça faisait déjà un petit moment hein, qu'ils travaillaient sur le jeu. Donc, moi, ils me contactent pour faire du props, notamment, parce que j'avais fait énormément de props pour Nova Quark, et j'avais la chance d'avoir eu la possibilité de les publier en ligne. Et il avait été très intéressé par certains éléments, etc., qui pensaient que, bon, adapté à leur direction artistique, ça marcherait. Du coup, il m'a contacté exclusivement pour ça. Après, bon, j'ai travaillé, enfin, petit à petit. Donc, j'ai commencé par des props et après, j'ai travaillé sur des maps et de l'interface et des icônes. Ouais, on a commencé avec des props et la direction artistique était déjà là. Et moi, j'étais là surtout pour habiller le décor, quoi.
D'accord. Donc c'est pas des assets gameplay quoi.
Alors
Ou pas
oui et
d'hab.
non.
Est-ce que c'est
Si parce
du
que
paint over d'environnement blockout ou genre de truc, non?
Alors si ouais j'ai fait du paint over d'environnement. Tout d'ailleurs ouais. Alors c'est ça. J'ai jamais pour Boski j'ai jamais créé from scratch. Enfin de zéro. Ils me donnaient toujours des block art. Ils avaient déjà des block art testés gameplay etc. Du coup moi j'étais là pour rationaliser l'environnement. J'ai travaillé sur la charging station, les consoles, l'UI, l'interface pour les consoles. Je travaillais aussi pour une sorte d'ascenseur, c'est pas vraiment un ascenseur, mais ça ressemblait, sur une map qui au final a changé. Ouais, j'ai fait ce qu'on appelle du set dressing, du coup, ouais, on te donne une base 3D et tout reste comme ça. Après, c'est à toi de changer quelques formes, d'appliquer les matériaux, la lumière, ça sera quoi l'ambiance, etc. Du coup, ça c'est ce que j'ai fait aussi.
D'accord, donc plutôt cool.
Ouais,
Carrément
non,
cool.
vraiment super. Hein. Non, j'ai pas à me plaindre, c'était génial et c'était génial. Enfin, bonne collaboration avec Tramel, qui est du coup l'art directeur. Tout en anglais, avec mon anglais qui était horrible à l'époque. Mais non, ça s'est bien passé, j'ai jamais eu de problème avec eux, payé à temps, super, super respectueux, enfin bref, j'ai vraiment pas à me plaindre, quoi. C'est dommage que la boîte est fermée.
Et du coup, ton contrat avec eux s'arrête quand la boîte s'arrête? Ou alors t'es parti faire autre chose avant? Ou il y a un moment où ils avaient juste plus besoin de freelancers, quoi.
Non, pas du tout. Je pense que jusqu'à la fin, ils ont travaillé avec des freelancers. Ils ont travaillé avec énormément de freelancers, au moins une trentaine.
Ok.
Non, mais moi, j'ai fini de bosser avec eux, ouais, des mois avant que la boîte ferme. Le truc, c'est que moi, je ne travaillais pas continuellement avec eux. En fait, c'était, je crois que c'est pour ça qu'ils appellent ça contract artiste plutôt que freelance artiste. Ça veut dire que t'as un contrat par tâche. En fait, du coup, je vais travailler, on va dire en juillet, je vais travailler sur une tâche qui va me prendre une semaine, et ça sera tout pour le mois de juillet, quoi. Et après, ils vont me recontacter en septembre pour une autre tâche, et peut-être plusieurs, et peut-être pendant tout le mois de septembre, je vais bosser pour eux, quoi. Et après, j'en entends plus parler jusqu'à mars prochain. Donc, c'était une collaboration sur un an ou deux, je sais plus, mais vraiment étalée, quoi. Enfin, sporadique.
D'accord. Et du coup, pendant ce
Je peux l'appeler
temps-là,
comme
tu
ça.
prends d'autres contrats ou tu vas travailler ailleurs?
Ouais, alors pendant ce temps-là, du coup, je suis encore hyper chanceuse. J'ai Volta qui me contacte, une boîte de design pour jeux vidéo et films. Je crois que c'est plutôt jeux vidéo surtout. Donc c'est une boîte qui est basée au Canada. Et moi j'ai toujours été une méga fan. Du coup c'était aussi un peu genre, qu'est-ce qui se passe quand je reçois ce mail dans ma boîte? Et du coup, ils me contactent et ils me disent qu'ils recherchent quelqu'un pour du freelancer, etc. Que l'art directeur aime beaucoup mon portfolio et que je serai un parfait fit pour ce qu'ils font. Du coup, je leur dis OK. Jusque-là, ils me donnent pas le nom du projet. J'ai d'autres mails s'échangent, etc. Et puis là, j'apprends que je vais travailler sur Mass Effect Andromeda et je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est dommage que le jeu ait eu les problèmes qu'il a eu, mais bon, j'en suis pas responsable. Mais pour moi, du coup, ça a été un majeur, un step. Bon, ça a été un autre échelon, quoi. Du coup, je travaillais sur Mass Effect Andromeda, sur une race alien, je crois que c'était les Keef.
D'accord. Donc là, tu passes d'environnement à personnage, quoi.
Non, non, alors j'ai pas travaillé sur les personnages, moi j'ai travaillé sur les props, en fait,
D'accord.
pour
Qui
la
sont
race
associés à
alien.
cette race-là. D'accord.
Donc voilà, donc je travaille avec eux, mon boulot est validé par Volta, puis validé par le directeur à BioWare, ça revient si je dois corriger certains trucs, blablabla, etc. Voilà, mais ça c'était vraiment c'était un peu pareil que Boski, c'était des tâches où ouais, je vais travailler pour eux ce mois-ci, dans 2 mois j'entends plus parler, et puis ça revient, etc. Pendant mon temps en freelance où j'ai bossé pour Boski et Volta à la fois, vraiment chanceux, j'ai pas eu à chercher d'autres freelances en fait parce que j'étais assez occupé et ça me payait assez en fait pour vivre. Donc ça c'était plutôt cool.
Donc derrière, tu vas enchaîner un autre studio encore une fois?
Ouais. Je termine pendant que je termine Mass Effect, il y a un recruteur. Qui est pas de frontières, c'est des chercheurs de
D'accord.
tête.
Attends, me vient une question. Je suis désolé, je te coupe.
Je t'en
Oui,
prie.
la malédiction arrive. Du coup, ouais, je me demande, en fait, pendant que tu bosses pour arriver chez, pour travailler pour Volta. Je me demande comment ils ont fait pour trouver ton travail, parce que du coup, ce que tu fais sur Lawbreakers, tu le mets pas sur ton portfolio, t'as pas le droit.
Et non, et
Et du
non.
coup, comment ils te
Alors ça, c'est
trouvent
une
et
bonne
comment ils te
question.
prennent? Est-ce que c'est par rapport à tes trucs passés?
Alors oui. Ce que j'avais publié pour Nova Quark. En fait, à cette époque, donc ArtStation existe. Je crois que c'est le début, c'est le grand boom. Et je découvre le travail de l'art directeur, Guy Guimarães, sur ArtStation. Et j'adore, il fait des personnages stylisés, etc. Et du coup, je m'abonne en fait à son ArtStation. Et je like 2 3 trucs, mais ça c'était des mois avant que j'entende parler de Volta en fait. Et je pense que, bon, forcément, quand t'as quelqu'un qui s'abonne à toi, je pense que tu cliques sur son profil pour savoir qui est cette
Ça
personne.
arrive
Et
souvent.
voilà, c'est ça. Du coup, je pense que c'est là qu'il a vu mon travail. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe quand tu vois quelqu'un dont t'aimes le travail, généralement tu le gardes sur une petite pile et tu te dis ouais ça peut servir plus tard et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est là qu'il m'a contacté, c'est comme ça que je me suis fait contacter en fait parce qu'il avait vu mon travail déjà quelques mois avant et le truc c'est que, ok, petite précision, c'est que pour ceux qui ont pas vu mon portfolio, Moi, je fais pas vraiment dans l'environnement ou les personnages, etc. Moi, je suis plutôt spécialisée dans ce qu'on appelle hard surface ou design industriel. Du coup, tout ce qui est mécanique ou industriel, c'est ce qu'il y aura dans mon portfolio, que ce soit des véhicules, des armes, des structures industrielles ou enfin, peu importe tout ce côté froid en fait, de la science-fiction, c'est ce qu'il y a dans mon portfolio. Et le truc, c'est qu'à l'époque, il y avait énormément de jeux, il y a une, enfin, il y a toujours, il y a énormément de portfolios très axés environnement ou énormément de portfolios très axés personnages. Et c'est très bien, mais il y a une énorme concurrence dans ces domaines. Après, je dis pas que j'ai choisi mon domaine parce que je veux éviter la concurrence, c'est pas ça du tout, c'est surtout parce que j'adore faire ça en fait. Et à cette époque, il n'y avait pas énormément en fait de portfolios de personnes faisant ça. Du coup, c'est un peu plus facile d'émerger en fait dans cette foule de concept artistes. Du coup, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a repéré mon portfolio parce qu'il y avait très peu de gens qui faisaient ça. Et c'est exactement ce qu'il recherchait pour Mass Effect Andromeda. Du
D'accord.
coup, ouais, ça m'a pas mal aidé pour avoir ce job.
D'accord. Bon, désolé de t'avoir coupé, hein, du coup. On
Non,
peut
non, je t'en
repasser à
prie.
la partie frontière.
Ouais.
Frontier, excuse-moi. Du coup, tu vois, quand on est
Frontière.
en France, on n'a pas trop les prononciations en anglais.
Du coup, je termine mon. Je crois que je travaillais encore pour Volta quand je me suis fait contacter. Alors, je tiens à dire que cette période entre la fin de Nova Quark et Frontières, c'était genre 3 mois. Donc,
D'accord.
3 mois où j'ai eu Lawbreakers et Volta, même si après j'ai continué à travailler pour Lawbreakers durant Frontières. Mais voilà, j'ai un chasseur de tête. Enfin, il y a énormément de cabinets comme ça en Angleterre, de chasseurs de tête qui sont dédiés aux jeux vidéo et aux films, et qui se chargent de contacter des artistes, etc., pour les placer en fait dans des studios. Et alors là, petite note, votre CV, votre site web, votre LinkedIn, etc. Si vous êtes intéressé à travailler à l'étranger, alors ça paraît bête, mais oui, la France, c'est bien, mais votre CV, etc., faites-le en anglais et faites en sorte surtout que la première page sur laquelle on arrive soit en anglais. Parce que ça décourage un peu. Alors, bon, eux, ils sont habitués à parler qu'une seule langue, mais du coup, s'ils arrivent sur un site web où tout est en français, bon, bah,
Oui, next.
ils savent juste pas où cliquer et vous passez à la trappe. Et c'est super dommage si vous avez envie de travailler à l'étranger. Du coup, bon, voilà, mon LinkedIn, etc., tout ça, c'était en anglais. Et je me fais contacter par ce chasseur de tête basé à Londres et qui me dit qu'il y a Frontières qui recrute et qui pense que mon portfolio correspondrait. Moi, le truc, c'est que dans mon portfolio, il n'y avait que de la science-fiction, puisque Nova Quark travaille sur un projet de science-fiction
Ouais.
qui s'appelle Dual Universe. Et Frontières recrutait pour le projet Elite Dangerous, qui est aussi un projet de science-fiction. Et ils avaient besoin de concept artistes de concept artistes qui faisaient de la science-fiction. Du
Du
coup,
coup, c'est un match.
voilà, du coup, c'était un match. Du coup, alors, pour ceux qui savent pas, les chasseurs de tête, alors, en fait, toi, tu n'as jamais un échange avec la compagnie, avec le studio directement. Le chasseur de tête se charge de tout, même de négocier ton salaire. Alors, bien sûr, toi, tu lui donnes des informations, tu lui dis, moi, je veux tant, ou pas en dessous de tant, ou quoi que ce soit. Et j'ai envie de dire que si vous commencez et que vous n'êtes pas trop à l'aise à négocier, savoir quel est le. C'est quoi les prix du marché, etc. Les chasseurs de tête, c'est vraiment super parce que ils vont essayer de négocier le salaire le plus haut possible pour vous parce que eux, ils gagnent une commission dessus.
Ouais, voilà, c'est pas vous, ça
Du
c'est
coup,
important parce qu'au début on le sait pas forcément, mais on ne paye pas nous-mêmes
ouais.
le chasseur de tête en fait.
Exactement. C'est entièrement gratuit pour vous. Ce sera le studio qui paiera toutes les taxes, etc. Donc pour vous, en fait, c'est tout bénef si vous êtes nouveau. Ah, bon, quand on a de l'expérience, après, on se passe hein, des chasseurs de tête parce que. Parce qu'on n'en a plus besoin. Mais quand on commence et qu'on veut travailler à l'étranger, c'est vraiment génial. Ils se chargent de tout, la négociation, le contrat, blablabla, tous les trucs. Vous n'avez aucune idée de comment ça se passe, ils le font. Et ils essayent de vous représenter au mieux, et vous avez un échange, etc. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez lui poser des questions. Ils vont vous donner des infos sur la ville, sur le studio, sur les tarifs, c'est quoi le marché, etc. Si vous gagnez tant, vous pouvez louer tel genre d'appartement, faire ci, faire ça. Vous avez ce genre, ce montant de factures, etc. Ils vous donnent vraiment un descriptif de qu'est-ce que sera votre vie si vous décrochez ce job. Du coup, c'est vraiment génial. Et c'est ce que cette personne a fait pour moi.
Donc toi, tu as eu plutôt un bon contact avec les chasseurs de tête, parce que je connais des gens avec qui c'est pas forcément passé bien, ils répondent pas forcément aux mails.
Je peux pas leur en vouloir en fait pour ça, c'est surtout parce que eux ils travaillent avec énormément de gens, ils essaient de récupérer le meilleur candidat pour le poste. Du coup, s'ils voient qu'à un moment ça matche pas, ils arrêtent de vous répondre. En revanche, s'ils voient que que vous êtes clairement un candidat qui peut aller loin dans le process d'interview, là ils sont à 200% avec vous, quoi. Donc je peux pas vraiment leur en vouloir en fait. Ça marche ou ça marche pas. Moi jusque-là toutes mes expériences avec les chasseurs de tête ont été bonnes et la plupart du temps c'est plutôt moi qui me disais non, ça m'intéresse pas, peu importe. Donc voilà, si vous êtes le candidat parfait pour ça, ils sont 200% avec vous parce que eux, ils ont envie de gagner leur thune aussi.
Ouais, forcément. Et donc t'arrives à frontière au final,
Ouais,
on va y
du coup voilà,
arriver.
je passe toutes les tout le process et j'arrive à Frontières et c'est génial. C'est génial parce que après c'est directement en CDI. Waouh. J'ai envie de dire que c'est
Ok.
pas forcément quelque chose qui arrive en France.
Donc tu vas travailler sur place ou là
Ouais.
tu travailles encore de chez toi?
Non, je vais travailler sur place. C'est un poste en studio. Du coup, je déménage à Cambridge. Ils me payent ma rélocation. J'ai rien à payer de ma poche.
Donc c'est-à-dire déménagement avec les meubles, etc. quoi.
Ouais, alors j'avais pas de meubles moi, parce que
Ah. Tu n'avais qu'un
je...
PC et une tablette, c'est normal.
Ouais, c'est ça, et un frigo avec un peu de bouffe. Mais ouais, bon, voilà. Non, bon, moi j'avais pas de famille, pas de rien du tout, du coup je déménageais seule et j'avais pas de meubles, quoi que ce soit, je vivais à Paris dans un meublé. Du coup, super simple pour moi de déménager. Et ouais, Frontier, ça a été une expérience sympa. J'ai travaillé exclusivement sur Elite Dangerous, dans une team de concept artistes formidable, et qui pour moi, certains font partie des meilleurs dans l'industrie, même s'ils ont quasiment zéro présence sur Internet. Mais j'ai énormément appris. Le bénéfice dans tout ça, c'est surtout que Elite Dangerous, c'était un jeu qui existe. Quand je suis arrivé, qui était déjà sorti, c'est pour ceux qui sont pas familiers, Elite Dangerous, c'est un peu un MMO c'est un MMO comme World of Warcraft, mais c'est de la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, etc. Et ce qui est génial en fait, quand tu es junior, mon poste n'était pas junior, j'étais juste concept artiste plein temps. Comparé à Nova Quark, moi j'étais la seule concept artiste et surtout la seule artiste 2D en fait. Et mon lead était 3D artiste et les autres artistes étaient 3D artistes. Du coup, quand t'es concept artiste et tu plonges en fait dans ce milieu, c'est un peu dur d'évoluer si t'as pas quelqu'un qui fait la même chose que toi, mais qui est bien meilleur que toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas eu à Nova Quark. Alors j'ai pu évoluer un petit peu parce que j'ai travaillé dans une team et ça m'a aidé à comprendre des choses. Mais du coup, moi, tout ce que je connais là maintenant, je l'ai appris à Frontières et même si j'en suis partie, je serai éternellement reconnaissante pour ça. Parce que j'étais entourée de cinq autres concept artistes, dont mon lead, qui sont top niveau. Et qui ont pris le temps vraiment de m'expliquer les choses. Et je me suis sentie horrible en fait au début. Je me dis putain, les mecs ils me donnent un CDI, etc. Et en fait, moi quand je regarde ce qu'ils font à côté, je suis une sous-merde. Et pardon, tu couperas ça si tu veux. Mais j'étais clairement pas au niveau. Alors oui, je savais dessiner, je savais peindre, etc. Mais là, le sujet était vraiment particulier à Frontières. Et je veux vraiment mettre l'accent dessus parce que c'est un skill qu'ils m'ont appris. Et qui m'a permis ensuite de décrocher Creative Assembly, c'est que Elite Dangerous c'est très c'est de la sci-fi, c'est de la science-fiction, mais très ce qu'on appelle grounded.
Ça reste sur une base de réaliste, quoi.
Exactement, exactement. Donc, on design énormément de choses mécaniques, industrielles, etc. Mais ça demande énormément de recherche sur les technologies actuelles, etc. Tu peux pas juste poser quelque chose hein, sur ta tablette et dire ah ça fait ça, ça. Donc ça marche pas comme ça. Et du coup, tout ça, ces compétences de design, de recherche, etc. C'est quelque chose que j'ai vraiment appris à Frontier et grâce à deux personnes en particulier. Mon lead, Xavier Henry, qui est un art directeur avec un œil artistique fantastique et c'est super rare. Et Ben Andrews, qui était mon collègue, qui est maintenant à CD Projekt, fantastique concept artiste aussi. Et j'ai, ouais, ces deux-là m'ont quasiment appris tout ce que je sais. Ont changé ma façon de travailler. Je travaille énormément en 2D. Maintenant, je travaille beaucoup avec la 3D et avec tout plein d'autres outils qui m'aident énormément dans mon process. Et ouais, ouais j'ai juste envie de dire que Frontier a été l'expérience, moi, qui m'a appris tout ce que je sais maintenant.
Et du coup, derrière ça, c'est ce travail-là qui va te permettre de passer sur Creative Assembly?
Alors, oui, exactement. Du coup, bon, Frontier, Elite Dangerous continue. Et là, je me dis, bon, j'aimerais bien avoir un nouveau challenge quand même et j'aimerais bien changer de ville. Du coup, quelqu'un poste sur Facebook, enfin, un concept artiste dont j'admire le travail poste sur Facebook, qu'il recrute. Un concept artiste. Du coup, je postule en espérant pas grand-chose. Et au final, bah, je décroche le poste, hein, version courte. Et du coup, là, ça fait 5 mois que je travaille là-bas. J'ai pas encore fini ma période d'essai.
Ah.
Mais jusque-là,
donc
c'est génial.
N'en dis pas trop.
Non, j'en dis pas trop. Mais on travaille sur une nouvelle. Je travaille avec la console team. C'est la team qui est derrière Alien Isolation.
Okay.
Et je travaille du coup sur un nouveau projet qui n'a pas été annoncé, mais dont ils ont quand même annoncé que c'est un FPS.
D'accord. Bon, on va pas en dire plus alors.
Voilà, c'est tout.
Et ben, vu qu'on va s'arrêter là sur cette carrière assez impressionnante et assez intéressante, je t'avoue que jusque-là, je trouve ça passionnant, moi. Mais je vais passer à la question suivante qui est, avec toutes ces expériences, donc où tu as fait du freelance, du stage, différentes tailles d'entreprise, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères? Une grosse boîte, une moyenne boîte, petite boîte, travailler toute seule chez toi?
Alors, j'adore le freelance et à terme, j'aimerais retourner faire du freelance. En fait, cette question, c'est un peu particulier parce que, en fait, j'ai pas vraiment le choix que de travailler pour une grosse boîte ou peut-être une boîte de taille médium.
Par ta spécialisation, t'es obligé d'avoir
Exactement,
quelque
ouais.
chose comme
mon,
ça.
Ouais. Ma spécialisation et mon skill set, hein, désolé, je sais pas comment traduire ça, fait que moi je suis intéressante que pour les gros studios en fait. Parce que si je travaille pour un petit studio, ça veut dire que je devrais être multitâche, savoir faire de la 3D, etc. Alors je sais faire de la 3D, mais alors clairement pas clean, pas de la 3D ready pour le jeu. Du coup, je suis pas intéressante pour les petits studios. Ouais.
D'accord, oui, mais en même temps, ça te permet de décrocher des contrats sans que tu demandes à quoi que ce soit, donc c'est plutôt pas mal.
Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Je me plains pas du tout. Mais après, moi aussi, ça, bon, j'aime bien travailler dans les gros studios. Je sais pas pourquoi. Hein,
c'est un goût. Écoute, t'as le droit.
Voilà.
On reçoit tout le monde ici. Il y a une autre question que je voulais te poser. C'est alors parce que moi, j'ai pas côtoyé énormément de concept artistes non plus, et je me demandais, est-ce que toi, c'est plus l'univers, je suppose. Mais est-ce que le genre de jeu influence aussi ton travail?
Alors oui, clairement. Clairement, alors.
Par exemple, on va prendre sur Mass Effect, par exemple. Ouais, je tape au pif sur Mass Effect.
Sur Mass Effect, c'est différent parce que je travaille pas sur des
voilà,
éléments.
Voilà, j'ai
ou
tapé
des
sur
gameplay, en
le
fait,
cas
hein.
particulier.
Alors, sans parler de ce que je fais à Creative Assembly, enfin, je donnerai pas de détails ou quoi que ce soit, mais par exemple, je travaille énormément avec les game designers et les animateurs, etc. En fait, parce que tout ce que je fais est vraiment relié gameplay.
D'accord.
Et du coup, ouais, c'est vraiment centré autour du joueur. Et j'adore ça parce que ça me donne l'énergie et les contraintes en fait nécessaires à designer quelque chose qui j'espère permettra aux joueurs en fait de s'immerger dans le monde et de pouvoir s'éclater. Du coup, ouais, moi, la philosophie que j'ai quand je concepte, c'est qu'est-ce qui serait le mieux en fait pour le joueur, qu'est-ce que je peux faire passer par pas comme message, mais comme émotion en fait, parce que je design. Ouais, c'est super centré joueur.
Est-ce que du coup, est-ce que c'est possible que tu préfères un certain genre de jeu sur lequel travailler, ou est-ce qu'il y en a un qui te fait envie, ou est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est pas du tout lié à ça, ta recherche et ton plaisir?
Alors, moi, j'avoue que je préfère travailler sur des projets de science-fiction, même si j'adore jouer à des jeux de fantasy ou autres, hein, il n'y a pas que fantasy et science-fiction. Mais moi, ce que je préfère dans les projets de science-fiction, c'est surtout que il y a quand même une énorme, il y a, enfin, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit.
D'accord.
Il y a encore un énorme champ en fait à définir et à créer. Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que sera le futur en fait. Du coup, ça ouvre cette porte vers l'infini qui pour moi n'existe pas vraiment dans la fantasy parce que même si fantasy, donc magic, etc., ça reste quand même très ancré, bon, sauf si on va vers du Dark Souls ou du Bloodborne, et encore, ça reste quand même très ancré vers un passé. Parce que c'est très associé à ce qui est médiéval, etc. Du coup, il y a des choses en fait qui n'ont pas vraiment changé. Quant à la science-fiction, il y a tout plein de technologies auxquelles on pense maintenant et on ne sait pas du tout à quoi elles ressembleront dans le futur. Et moi, j'adore ça en fait, hein, parce que c'est là où je suis la meilleure, c'est imaginer des choses qui n'existent pas. Du coup, ouais, je préfère travailler sur des projets de science-fiction ou d'anticipation.
Mais toi, du coup, si c'est un FPS ou si c'est du RTS ou un jeu de combat,
Ah,
toi,
pardon, ok, tu parlais plutôt de ce genre-là.
ça... Oui, désolé, j'ai oublié de faire ma précision. Mais du coup, le genre en gameplay en lui-même, toi, te t'impacte pas forcément
Ok, alors,
directement.
si clairement, alors ça m'intéresserait pas de travailler sur un RTS, mais c'est surtout parce que pour moi, ce serait... Attention, j'aime les RTS, mais pour mon genre de travail, ce serait un waste. Comment on dit ça?
Du gâchis.
Ouais, ça serait du gâchis en fait, parce que, enfin, moi
Toi, t'es très
je suis
dans le
concept art
détail,
assez
peut-être.
détaillé,
Ouais, ok.
etc. Et du coup, bon, des petits trucs sur l'écran, bon, non, ça m'éclaterait pas du tout. Mais après, à l'opposé, par exemple, quand je travaillais sur Elite Dangerous, qui est, alors c'est pas un first person shooter, mais c'est un first person game. Mais l'univers est tellement grand que du coup les détails se perdent. Du coup j'avoue que moi je préfère travailler sur des FPS, oui, parce que je sais que le joueur pourra expérimenter ce que j'ai designé à l'échelle à laquelle j'ai designé.
Ok.
Et pas vu à
Dans des proportions différentes,
300 km.
quoi. Ouais.
Ouais, voilà,
Du coup, c'est
c'est
ce que tu
ça.
as pu voir aussi d'abord sur Lawbreakers, quoi. Puis Elite
Exactement.
aussi, au final, et en
Elite
FPS.
aussi, dans certaines mesures, parce que t'es dans un vaisseau spatial et du coup, enfin, j'ai designé quelques vaisseaux et oui, bon. Après, par exemple, dans une station spatiale, voilà, il y a une perte de détails, etc. Et moi, j'aime le détail. Bon, voilà. Mais du coup, ouais, non, first person, c'est le parfait. First person shooter, c'est le parfait projet, genre de projet pour moi.
D'accord. Alors, si tu veux, on va transitionner sur la deuxième partie un petit peu. Où, alors, bon, évidemment, on a déjà beaucoup parlé de toi. C'était intéressant, mais j'aimerais rentrer dans un truc un peu plus personnel, plus que ta carrière. Et ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton travail?
Moi, j'adore travailler en team, en équipe, et j'adore pouvoir faire rêver les gens à travers des images. Tout le monde a vu des films ou a joué à des jeux vidéo, en tout cas j'espère, surtout les prochaines générations. Et on a tous ces souvenirs en fait de moments qu'on a expérimentés en jouant des jeux ou même des films parce que c'est quand même des industries qui sont super proches et ça reste des souvenirs ancrés dans notre cerveau des années, toute notre vie. Et moi c'est ce qui me fait vraiment dans mon taf, c'est les gens. se souviennent ou pas de ce que nous, les gens visuels, en fait, font. Et parfois, ça déclenche des émotions genre extraordinaires. Et par exemple, quand je poste mes concept art pour Elite sur Internet et je vois en fait tous les joueurs commenter et me dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas, ou peu importe, même s'ils aiment pas, enfin, ça a laissé une trace, tu sais. Et moi, j'adore entendre parler de ça. C'est quoi leur expérience par rapport à ce que moi j'ai designé avec d'autres personnes? Qu'est-ce que eux ils en retirent? Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Et je les changerais contre rien au monde. Donc,
Super. Du coup, toi, c'est vraiment l'équipe, le projet.
ouais, clairement.
Donc, ouais,
Je
donc
suis
aujourd'hui, t'en es
100%
plus au
impliquée.
stade heureusement, et heureusement pour toi, et j'espère que les gens qui nous écoutent ont des objectifs pour en arriver à ce niveau-là, mais t'es plus dans je prends n'importe quel contrat, il faut manger. Aujourd'hui, t'es capable
Non.
de faire ta sélection et de dire j'ai envie de faire ces choses-là, quoi.
Ça, je pense que c'est une question que je pourrais répondre à laquelle je pourrais répondre quand je repasserai en freelance. Là, pour l'instant, j'ai envie de dire que bon, moi, j'ai mes préférences personnelles. Après, je sais pas ce que le futur m'apportera, mais oui, maintenant, je sais que, enfin, j'ai pas forcément un studio pour lequel j'ai travaillé parce que moi, je fonctionne vraiment par projet. Si le projet est génial, je fonce, même si c'est une boîte de taille moi, plus petite, hein, c'est pas le problème. Mais je sais que j'ai aucune envie de travailler sur une licence existante parce que c'est pas intéressant pour moi. Moi, j'ai envie d'avoir une liberté créative assez forte. Et sur les projets qui sont déjà existants, c'est un peu dur, et c'est le problème que j'ai rencontré sur Elite vers la fin, où j'étais un peu frustrée. Du coup, je sais pas si demain je peux dire salut, je suis freelance et que je peux choisir les projets sur lesquels j'ai travaillé, mais je m'efforcerai en tout cas de le faire, oui.
Tu construis ton portfolio aussi par la même occasion, donc il n'y a pas de.
Oui, voilà.
Je voulais te demander aussi, c'est une question que j'avais déjà posée à Martin, mais en tant que game designer, je pense que lui, il était extrêmement impliqué dans la passion en tant que joueur. Est-ce que toi, aujourd'hui, vu que tu nous as dit que tu avais commencé par jouer, que c'est un peu ça qui t'avait attiré dans le jeu, enfin, de travailler dans le jeu vidéo, est-ce que jouer est toujours une passion pour toi? Ou est-ce que le fait de passer tes journées à créer tous ces univers et ces images,
J'aimerais pouvoir dire oui, en fait. Alors, j'adore toujours jouer et j'essaye de jouer quand je peux. Le problème, c'est que le boulot me laisse très peu de temps. Du coup, je suis réduite à regarder des let's play pour me tenir informée de ce qui se fait dans l'industrie. Je peux les regarder quand je travaille, donc c'est aussi cool de pouvoir multitasker là-dessus. Mais j'aime toujours autant les jeux vidéo et j'adorerais avoir le plus de temps possible pour jouer. Mais c'est juste pas possible au niveau du temps, en fait. Hein. C'est horrible,
Non,
hein.
non, mais c'est quelque chose qui est compréhensible là, au bout d'un moment. Ouais.
Mais oui, non, je me tiens un jour de ce qui se fait, etc. Et j'aimerais vraiment. Enfin, j'ai une librairie massive, des centaines de jeux vidéo sur Steam et sur ma PS4 auxquels je dois jouer. Il y en a qui sont sortis depuis déjà des années et j'ai pas eu le temps d'y toucher, quoi. Du coup, ouais. Les let's play, je suis contente que les let's play existent du coup.
Tu peux faire
Ça, je suis
les
pas trop à la
jeux
ramasse.
par les autres, quoi.
Ouais, c'est ça, les playthroughs, c'est ça. Qui est pas la même expérience, bien sûr, mais bon.
Alors, je voudrais parler maintenant d'une partie. À la base, je voulais parler de l'industrie. Avec tout ce que tu viens de nous dire, je pense que j'ai des questions qui me viennent en tête plus sur des conseils que tu pourrais donner aux gens qui ont envie de faire du concept art. Parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup dans les écoles, les gens qui veulent faire du concept art. Je pense qu'on voit beaucoup, enfin, je pense que tu vois beaucoup passer les mêmes profils. Par exemple, des gens qui font de l'environnement et des personnages, ou des personnages mais de manière très large, tu vois, sans univers particulier. C'est quoi déjà les conseils que tu leur donnerais de se spécialiser ou de rester sur un truc très large, comme toi tu as pu le faire sur un truc spécialisé?
Moi, je dirais qu'une spécialisation, c'est jamais mauvais, surtout si vous êtes extrêmement bon là-dedans. Ouais, si vous décidez de le faire, foncez, mais alors à 300%, quoi. Soyez bon dans ça. Moi, je vois. Alors oui, il y a énormément en fait, de portfolios purement environnement ou purement personnage, etc. Et c'est pas du tout un problème. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Mais si vous postulez pour le jeu vidéo, pour une position en studio, parce que freelance c'est un peu différent, soyez sûr de démontrer que vous pouvez être inclus en fait dans un pipeline. Parce que moi je vois énormément de portfolios, prenons par exemple les environnements, où il y a des environnements qui sont géniaux, etc. Et je me dis, ok c'est cool, mais enfin pour moi, tu me montres pas en fait tout ce que j'aurais besoin de voir si jamais on travaille ensemble sur un projet de jeu vidéo. Et tu peux pas juste me donner une image comme ça d'un château avec une super lumière et un lac et un truc comme ça. Ok. À un moment, il y a quelqu'un qui va devoir travailler à partir de ça, qui doit devoir construire et tu vas devoir lui donner des détails. Donc, il faut que tu puisses montrer dans ton portfolio que tu peux aussi faire cette partie-là en fait. Si tu designes ce château, etc., tu vas devoir me donner ce qu'on appelle des call art en anglais, une autre fiche technique où il y aura un breakdown, désolé pour le franglais, en fait, de à quoi cette tour dans ce château ressemble, c'est quoi l'architecture, etc., me donner des annotations, blablabla, blablabla, parce que tout ça, en fait, c'est ce que les 3D artistes ils viendront te demander comme information. Et en fait, ça paraît tout con, hein, mais il y a énormément de portfolios qui ont pas ça du tout. Et c'est dommage parce que si vous voulez une position en studio, bah vous passez à la trappe directement en fait. Alors que si c'est là directement de votre studio, là du coup ça attire l'attention des studios. Ils se disent ok, on se pose pas la question, on se dit ouais ok ce mec il sait ou cette fille, cette personne sait comment on travaille dans une team de concept artistes. Il va pouvoir me donner toutes les informations que je veux. Et tout ça, c'est la même chose pour les personnages, en fait. Vous pouvez faire des personnages qui sont géniaux, etc. Mais pour moi, un one-off, donc juste un personnage comme ça, sans aucun contexte ou quoi que ce soit, bon, c'est très bien. Mais en fait, tout le monde sait faire ça. Hein. L'autre partie que tout le monde sait pas faire, hein, c'est surtout me donner plus de détails à propos de ce personnage, c'est quoi son background, c'est quoi, pourquoi est-ce habillé, comme ça en fait, donner des éléments de storytelling en fait dans votre image, détailler c'est quoi les gadgets, si elle a des gadgets ou des tattoos, etc., mettre ça sur une fiche séparée. Et je comprends que ça c'est pas du tout quelque chose que tout le monde aime faire. Du coup, je dirais, faites du freelance. mais si vous voulez être en studio, c'est clairement quelque chose qu'on vous demandera de faire, et vous devez être capable de le faire. Sinon, c'est pas vraiment utile en fait en studio. Et on parle au dernier event où je suis allé, du coup, aux Pays-Bas, on a énormément parlé de ça avec mes pairs, PAIRS. Où en fait les gens considèrent ça généralement comme le boulot ingrat, alors que bon, je trouve que c'est pas du tout un boulot ingrat. Et il y a cette différence entre l'art que les gens veulent voir, et quand je dis les gens, c'est vraiment l'audience large, ça veut dire grand public, c'est pas forcément juste les game developers. C'est l'art que les gens aiment voir, ce qui rapporte le plus de likes sur ArtStation, Facebook, etc. Et le genre d'art que les recruteurs, les studios, etc. veulent voir. Et en fait, la catégorie 2, il y en a très peu. Et la catégorie 1, il y en a énormément. Et du coup, si vous êtes que dans la catégorie 1, vous êtes juste noyé dans cette mer de concept artistes géniaux qui peuvent peindre des images fantastiques, etc. Mais après, quand on demande à ces gens-là de designer proprement en fait ce qu'ils ont fait dans leur première image, voilà, ben c'est la catastrophe. Et ces personnes-là sont pas vraiment recrutables en fait. En studio, je précise.
Oui, bien sûr. Mais alors, du coup, je me demande, parce que vu que toi, pas que tu as été formé, mais tu as grandi un petit peu pour entrer dans le jeu vidéo avec des forums et tout, est-ce que toi, tu traînes sur des forums pour aider ces gens-là? Est-ce que tu as pris ce rôle-là pas de mentor, entre guillemets, d'aider les gens à progresser sur leur travail, ou est-ce que tu n'as pas le temps, tout simplement, ou pas l'envie? Parce que c'est des gens qui pourraient
Non, je
venir
suis
te
pas.
prendre ton travail.
Alors, non, alors non, j'ai aucun problème avec la concurrence et aucun problème. Non, alors moi je suis ravie d'aider. Je suis pas du tout sur les forums ou quoi que ce soit parce que à l'époque oui, mais j'ai pas le temps. C'est horrible. Ceci dit, si on m'envoie un message via Facebook, Twitter ou peu importe et on me demande des conseils, je vais peut-être prendre quelques semaines pour répondre. Hein, désolé, mais voilà, je suis occupée. Mais je répondrai et j'essaierai de faire mon mieux pour donner un feedback. Et si vous m'attrapez un workshop et vous me montrez vos trucs en physique, etc., bah ouais, pareil, je serai aussi avec plaisir, je donnerai des conseils, des retours pour aider les gens. Mais ouais, non, je suis pas du tout sur les forums, désolé.
Ok, mais par contre, du coup, tu penses que ArtStation, c'est encore un bon moyen pour être visible ou est-ce que c'est noyé, quoi? Tu vois, ArtStation, il y a énormément de gens. Est-ce que c'est encore une bonne chose d'aller là-bas?
Alors, je dirais que clairement, ayez un portfolio sur ArtStation, soyez là au moins, parce que les recruteurs en fait ils scannent ArtStation, du coup, c'est quand même bien d'avoir une présence là-bas. Mais le problème avec ArtStation, c'est que vous êtes à deux doigts qu'un recruteur clique sur le profil de quelqu'un d'autre qui est bien meilleur que vous parce que vous partagez tous la même plateforme en fait. Et ça, c'est un énorme problème. Donc soyez sur ArtStation définitivement parce que de toute façon, c'est la première chose qu'on va consulter généralement quand on recherche quelque chose. Mais soyez sûr d'avoir un site web et un site web bien designé. est facile à naviguer.
On évite les couleurs fluo.
Évitez le flash. Abandonnez Wix. Ok, tout. Je vois énormément de portfolios sur Wix. Et désolé Wix. Peut-être que c'est génial pour certains trucs, mais alors pour votre portfolio en tant que concept artiste et peut-être même les autres, oubliez parce que ça prend un temps fou à charger et c'est horrible. Et quelque chose dont on discutait avant d'enregistrer. Et c'est un peu la dure réalité des choses, c'est que votre portfolio, aussi inimaginable et génial qu'il puisse être, quand on reçoit une liste de centaines de portfolios, bah, on passe moins d'une minute, voire moins de 30 secondes sur votre site internet. Donc si votre site internet prend une plombe à charger, vous passez à la trappe directe. On n'a pas le temps en fait. On va juste scroll down super vite jusqu'à ce qu'il y ait une image qui retienne notre attention. Et ensuite on passe à l'autre, hein, ou alors on vous contacte.
Mais
Du
c'est une
coup,
dure vérité.
ouais, c'est une dure vérité, c'est horrible. Et moi, ce que je recommande, c'est que, tout le monde n'a pas envie de forcément de regarder un tableau Excel, mais si vous n'avez pas encore installé Google Analytics sur votre website, bah, vous devriez un peu évaluer les stats pour voir qui sont vos visiteurs, combien de temps ils passent par page, etc., et où est-ce qu'ils s'arrêtent, où est-ce qu'ils partent, comment ils arrivent. Évaluer tout ça
Intéressant.
et optimiser votre portfolio en fonction de ça, c'est super important. Petit
C'est
tips,
carrément une bonne
je vais
idée,
être
ouais.
très courte là-dessus, j'écrirai peut-être un truc là-dessus, un blog, on verra. Mais oubliez les splash art images. Moi, quand j'arrive sur votre portfolio, je veux voir l'art directement, je m'en tape de voir votre photo ou votre contact, etc. Gardez ça pour la fin, je passerai sur la page contact de toute façon si je trouve que votre art est génial et que j'ai envie de vous contacter. Non, la première chose que je veux voir quand je clique sur votre lien, c'est tout votre art, pas caché sous une trentaine de menus dans votre barre, etc. Gardez ça simple. Vous avez une galerie. Work et une galerie et peut-être sketch. Moi, je pense que c'est bien de diviser les deux parce que je peux savoir c'est quoi votre qu'est-ce que
Votre
vous
level max et
ouais, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous considérez comme oui, comme fini, qu'est-ce que vous considérez comme recherche, etc. Donc c'est bien de diviser les deux. Mais voilà, moi je veux voir juste trois catégories en fait, c'est galerie, sketch et contact, c'est tout. Et j'ai pas besoin de plus, ne me donnez pas des animations, des machins, etc. Enfin, pitié. On passe moins d'une minute sur votre site portfolio, rendez-le efficace et efficient.
Alors, j'ai une dernière question avant de passer à la dernière partie de l'émission. Je vais te demander, ça se passe bien l'expatriation?
C'est génial. On va pas parler du Brexit. ouais, aucun
Non, mais
regret,
vive
ça
en
fait.
Angleterre, du coup, pour tous les petits Français qui restent au pays.
Moi, j'ai pas de regret, ça fait 3 ans que je suis en Angleterre maintenant. La culture au boulot est, je pense, je vais me faire des ennemis bien meilleurs qu'en France, surtout pour les artistes. Du coup, j'ai aucun regret de ce côté-là. Il faut savoir que, et c'est pas qu'en Angleterre, hein, les autres pays de l'Europe aussi, je sais pas pourquoi la France est pas inclue là-dedans, mais en fait, les autres pays d'Europe donnent plus facilement leur chance aux gens qui ont moins d'expérience, alors qu'en France, en tant qu'artiste, si t'as pas beaucoup d'expérience, c'est quand même super dur de décrocher un job et encore plus de décrocher un CDI. Dans les autres pays à l'étranger, ça sera bien plus facile. Parce qu'ils ont vraiment cette culture de quand vous commencez, en fait, ils savent qu'ils vont vous apprendre des choses. Alors qu'en France, j'ai un peu l'impression que c'est. Désolée de faire la comparaison, mais j'ai un peu l'impression qu'ils veulent recruter des gens qui sont déjà super bons à ce qu'ils font. Ouais, bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne quand on recrute un junior et un... ou un. Ou un. Ou un stagiaire, c'est censé être pour leur apprendre quelque chose. Et ils ont cette culture en fait en Angleterre où on recrute énormément de ce qu'on appelle des graduates, c'est des gens qui sortent d'école, etc. Qui parfois commencent directement avec un CDI. Hein. Du coup, c'est vraiment une autre mentalité et j'aime énormément ça. Après, dans le travail d'équipe, etc., c'est. J'ai envie de dire. En France, on a beaucoup cette mentalité, le boss, machin, etc. Si tu pars plus tôt que 18h, tout le monde te regarde avec des gros yeux, etc. Ici, ça se passe pas comme ça. À 4h30, il y en a qui sont déjà partis parce que bah, ils ont des enfants, etc. Il y a beaucoup de studios qui ont adopté ce qu'on appelle le flexi time. Ça veut dire que du moment que tu fais tes 37 heures, je sais pas combien, dans la semaine, tu peux arriver. Alors que tu veux, du moment que entre une certaine plage horaire, t'es au travail. Du coup, voilà, il y a énormément de flexibilité et de choses qui se passent bien plus simplement, même ne serait-ce que gravir les échelons. Voilà, je trouve que travailler à l'étranger, c'est génial. Et aussi, je pense que la chose la plus importante de toutes, c'est que travailler en Angleterre, le fait que la langue parlée soit l'anglais, le monde entier parle anglais, ce qui fait que vous vous retrouvez à travailler avec des collègues qui viennent du monde entier. Et ça, c'est juste formidable quand on est dans une industrie créative, hein, parce qu'on n'a pas le même passé, on n'a pas regardé les mêmes films, on n'a pas lu les mêmes les mêmes bouquins. Et du coup, tout ça nourrit en fait le projet sur lequel vous travaillez. Et ça a clairement pas de prix en fait. À Creative Assembly, on a énormément d'étrangers, que ce soit des Français, des Néerlandais, des Allemands, des Américains, des gens d'Argentine, du Venezuela, etc. Et c'est juste fantastique. Vous avez même pas besoin de bouger de l'Angleterre pour voyager, quoi, parce que tout le monde vient du monde entier. C'est génial. Et pour ça, ouais, c'est une un des avantages en fait de travailler en Angleterre.
C'est beau, on sent que t'as des étoiles dans les yeux quand tu dis ça.
Ouais. Désolée, ouais, je suis peut-être surexcitée, mais j'adore ça. Enfin, moi, j'ai énormément travaillé voyagé quand j'étais jeune. Mon père était dans l'armée française. Du coup, on a pas mal bougé. Je suis jamais restée plus de 4 ans quelque part. Et du coup, ouais, travailler dans un endroit où j'ai le monde entier avec moi, c'est juste parfait, quoi.
Eh ben, je te propose de passer à la dernière partie de l'émission, là où je vais toujours poser les mêmes questions pour le coup. Et du coup, la première question de cette dernière partie, c'est, alors sans vouloir poser de problème entre toi et ton employeur, s'il y avait une franchise sur laquelle tu voudrais travailler, laquelle ça serait? Mais en même temps, tout à l'heure, tu nous as dit que tu voudrais pas spécialement travailler sur une IP qui existe déjà.
Non, j'avoue. Donc ouais, non, clairement pas une IP qui existe déjà. Ou alors, faut vraiment qu'il y ait une énorme 180 tours, comment on dit ça? Revirement de situation sur cette IP.
Bah du coup, est-ce qu'il n'y en a pas une que tu as trouvée spécialement originale ou quelque chose où tu te dis là, on sent qu'il y a une synergie dans l'équipe où j'aurais bien voulu être?
C'est un peu dur de parler de
C'est
ça
ouais,
si t'es
c'est
pas dans le
dur.
studio en fait. Non, 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 si t'es pas dans le studio, c'est un peu dur de savoir quelle est la
Ouais,
synergie
forcément.
de l'équipe en fait. Du coup, ça, je sais pas. Non, franchement, pour l'instant, il n'y a aucune franchise sur laquelle j'aimerais travailler. Si elle existe déjà, je me dis, bon, je suis d'aucun. Je sers à rien sur cette IP, en fait.
Ok.
Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ça, c'est pour les jeux vidéo. J'adorerais
Ah.
travailler
Sur
sur
du
n'importe quelle
film.
IP sur des films. Ouais.
Très bien. Je passe à la deuxième question. Est-ce que tu as une reco de lecture ou de chaîne ou de blog peut-être qui t'aide à avancer ou que t'aimes bien
Ouais, alors j'ai une liste énorme et j'en parlerai pas de tous, mais je t'enverrai les liens
Allez,
pour les mettre en
dis-nous
description.
ton truc favori, quoi.
Alors, pas forcément favori, mais essentiel. Moi, je dirais que tous les concept artistes, etc., vous devriez regarder les conférences de Mike Hill, qui est un designer pour jeux vidéo et films. Et toutes ces conférences sont gratuites. Vous pouvez les regarder sur son site ou sur le site d'Industry Workshop. Ce sont généralement des conférences qu'il a enregistrées durant des événements comme ceux dont j'ai parlé au début du podcast. Ce sont des conférences qui sont très axées design, storytelling et analyse de films, pas de jeux vidéo, mais de films. Et moi, ça a été un peu un tournant dans ma carrière quand j'ai vu ces conférences la première fois. Et je les recommande chaudement. C'est quelque chose à pas rater, surtout qu'elles sont gratuites. Du coup, ouais, les conférences de Mike Hill.
On mettra
Pour
le lien dans la
ceux,
description.
petite dédicace à ceux qui adorent le hard surface et tout ce qui est design industriel, etc. Je recommande les chaînes comme How Stuff Work. Alors oui, disclaimer, tout ça c'est en anglais. Désolée, je regarde plus de contenu en français. Ce sont des chaînes en anglais. Je ne pense pas qu'elles soient traduites. La dernière fois, Martin a parlé de Extra Credit. Je recommande énormément aussi. C'est génial. Parle beaucoup d'histoire, mais pour compléter ça, il y a aussi, je crois que c'est Dan Carling, qui a une chaîne YouTube aussi avec des émissions dédiées à l'histoire, mais vraiment hardcore. Mais c'est très 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 bonne info. Je recommande tout ça surtout parce que enfin, le métier de concept artiste, il y a énormément de. Enfin,
De
vous aurez une
référence, de
énorme.
recherche.
Ouais, c'est ça, une énorme part de recherche dédiée à ça. Et du coup, c'est super important en fait de se tenir au courant de ce qui a été fait dans l'histoire ou alors ce qui se fait dans la technologie ou etc. Et surtout varier en fait le contenu parce que vous saurez jamais sur quoi demain, sur quoi vous allez travailler demain en fait. Et ça peut être quelque chose qui est complètement en dehors de ce que vous connaissez. Et c'est bien d'avoir du knowledge qui est déjà là, de la connaissance qui est déjà là.
C'est terrible, hein, sur tous les mots. Hein. T'es un peu
Désolé.
le Jean-Claude Van Damme de Meet the Dev, du coup.
Oh non, c'est pas une super comparaison ça.
Je vais poser la troisième question. Du coup, est-ce que t'as encore des loisirs en dehors du jeu vidéo? Peut-être des loisirs même qui viennent te nourrir ton travail. J'imagine que vu que tu es dans la science-fiction, tu dois peut-être être fan de tout ce qui est SpaceX et ce genre de trucs.
Oui, ben, clairement. Bon, ben, oui, je regarde, je me tiens pas mal au courant de ce qui se font. Je fais du model kit et plus récemment, parce qu'on a une team au travail où en fait tous les mardis on occupe la salle de réunion pour faire du model kit. Pour ceux qui savent pas, c'est genre construire des voitures ou des
D'accord.
avions ou peu importe en fait tout ce qui est en kit.
C'est de la miniature, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà, des miniatures, merci. Du coup, il y a ça, j'adore faire du vélo, j'adore faire du surf, mais ça fait un bout de temps que je n'en ai pas fait depuis que je suis en Angleterre.
Bah, pourtant, il doit pleuvoir assez, non?
Oui, mais bon, c'est pas tant au niveau de la pluie, c'est surtout les vagues, quoi. Et puis, il faut habiter à côté de la mer, et j'habite pas
Ouais,
côté de
une
la mer.
voiture.
Je conduis pas.
Bah non, mais tu t'accroches.
Oui, j'aimerais bien. Ouais, bah, j'adore
Ça
regarder des
fait déjà
films,
une
bien
belle
sûr.
liste, hein.
Pardon?
J'ai ça fait déjà une belle liste.
Oui, bon, je vais m'arrêter là alors.
Non, mais t'as le droit d'en avoir plus, attention. Mais je vais te poser la dernière question. Attention, c'est la question fatidique. On dit souvent qu'il faut échouer pour ensuite réussir. Est-ce que toi, t'as fait un dans ta carrière, t'as eu un échec ou est-ce que t'as fait une erreur que tu voudrais partager et qui t'a amené à un apprentissage que tu pourrais partager?
Ouais, alors j'en ai un énorme un énorme échec, pour moi en tout cas, qui s'est passé il y a 2 ans, où je suis allée à un event. J'adore parler des events. Un événement autour du jeu vidéo. Et c'était pendant une portfolio review. Donc je montrais mon portfolio à cette personne qui était dans ce qui travaillait pour ce studio, que je ne nommerai pas. Et enfin, ça faisait un an que j'étais en Angleterre déjà, et j'étais super contente d'avoir décroché ce job à Frontier, etc. Et je me suis un peu reposée sur mes lauriers. Et je me suis pas rendu compte que j'ai évolué un peu moins vite qu'avant. Et du coup, voilà, je montre mon portfolio à cette personne qui est un art directeur, et il me casse en mille morceaux. Et là, en fait, ça a été ce qu'on appelle le wake-up call. Ça a été la gifle où je me suis dit, ok, cocotte. Dans cette industrie, les choses avancent, les choses bougent très vite, les gens deviennent bons très vite en fait, et toi tu peux pas faire de pause en fait si tu veux continuer à poursuivre ton petit rêve de travailler sur des projets que t'aimes. Bah, va falloir t'activer quoi. Donc il m'a cassé en mille morceaux, et ça a été super dur à avaler, et pas dans le sens où j'étais super énervé ou pas du tout, parce que en fait c'était très valable hein, sans feedback hein. Mais je pense que je m'y attendais pas en fait, j'étais un peu comme un petit papillon sur une fleur, et
Du coup, c'est que le niveau, les standards, après que tu sois rentré dans la boîte, les standards du concept art ont continué de grimper et
oui
toi,
voilà c'est
t'es
ça.
pas allé travailler sur ces points-là, quoi.
Exactement, c'est ça. Alors bon, c'était déjà un studio bien plus élevé que le studio dans lequel j'étais, donc c'est pas le même niveau de recrutement aussi. La claque a été, ok, pendant ces quelques mois où t'as été en Angleterre, t'as un peu rien foutu quand même, hein, parce que t'étais juste contente d'avoir ton premier CDI. Mais en fait, c'est pas fini parce que c'est que le début. Et c'était la grosse claque, et j'ai travaillé énormément depuis.
Donc ton apprentissage, c'est faut continuer à suivre ce que les autres font et
Ouais, continuez, ouais, voyez vers où l'industrie se dirige en fait. Maintenant, par exemple, on parle énormément de VR, de réalité virtuelle avec l'Oculus, etc. Et j'avoue que ça devient un outil qui va devenir incontournable à un moment donné. Je dis ça surtout aussi pour parce qu'il y a toujours eu cette guerre qui est juste incompréhensible entre oh moi je fais que de la 2D, ceux qui font de la 3D ou qui utilisent des photos etc. dans le constructeur c'est des tricheurs. En fait tout le monde s'en tape hein, en fait de ça dans l'industrie, parce que à la fin c'est un business et on vous demande de produire quelque chose, et tout le monde s'en tape de savoir comment vous y êtes arrivé, si vous avez peint tout de zéro de A à Z, ou si vous avez utilisé de la 3D, des photos, enfin peu importe. Du coup, restez pas bloqué sur un truc, expérimentez, arrivez au niveau que vous voulez et continuez à pousser, parce que c'est une industrie qui vous attendra pas, qui vous attendra jamais.
Et du coup, alors j'ai une extra question, voilà, la der des der, c'est aujourd'hui c'est quoi tes objectifs personnels? Parce que c'est un truc que je me suis que je me force à me mettre à moi-même et que j'apprends aux gens à se mettre des objectifs. Et du coup, je voudrais savoir, toi, est-ce que tu as des objectifs aujourd'hui pour ta carrière, toi? C'est un truc qu'on peut demander en entretien, ça, tiens. Est-ce
Oui,
que où est-ce que
c'est
tu te
vrai.
vois dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
C'est horrible cette question quand on commence, parce qu'en fait on a genre zéro idée de comment les choses se passent, et on nous demande ça et on me dit mais j'en sais rien moi. Parce que bon, après oui, tu peux répondre oh, j'aimerais bien être lead ou art director etc., mais en fait t'as aucune connaissance de ce que
Comment ça
ça
se
inclut
passe?
vraiment en fait de faire. Du coup là je pense que je suis un peu plus réfléchie, en tout cas j'espère, après 4 ans d'expérience, pour répondre à cette question. Moi, mon prochain objectif, c'est vraiment de travailler pour des films. C'est marrant parce que c'est une question qu'on m'a posée ce week-end aux Pays-Bas. J'adorerais travailler pour des films parce que le jeu vidéo, c'est génial, mais c'est pas tangible. Et moi, j'adorerais voir ce que je design être produit après en réalité. Alors je sais pas si tu connais Adam Savage ou alors Weta Workshop, ils
Ouais.
font généralement des vidéos de behind the scenes pour montrer en fait tous les props ou alors set design, etc. qu'ils ont construit en réel pour les films. Et c'est fantastique. Et moi, je veux designer pour ce genre de choses en fait,
D'accord.
pour qu'ensuite ça devienne tangible. Ça, c'est mon
Pour
prochain objectif. Après, forcément, dans ma carrière, j'aimerais évoluer, pouvoir faire un peu de direction, mais même maintenant, c'est trop tôt.
C'est bien de le garder en tête.
Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, je suis consciente de là où je suis maintenant, et clairement, c'est pas maintenant.
Ok. Je te remercie. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que t'es, ce serait ok pour nous donner les petites adresses où on peut te suivre, peut-être aller voir ton travail si on veut. Est-ce que je sais pas si tu as une actu en ligne, si tu fais autre chose, des blogs ou quoi que ce soit. C'est à toi.
J'ai pas de blog, je suis assez, enfin relativement active sur Twitter. Vous pouvez me trouver sous mon nom et mon prénom et mon nom de famille, Emily Rina. Mon site web, c'est emilyrina.net. Je poste quelques trucs sur Instagram. Généralement, je poste plus de sketchs sur Instagram, c'est des choses que je publierai pas forcément sur ArtStation parce que je garde pour truc assez propre, mais je suis aussi sur ArtStation et généralement si vous tapez mon nom et mon prénom, vous me trouverez sur les réseaux sociaux dédiés, Twitter, Instagram, Facebook, ArtStation, peu importe.
Ok, ça marche. Eh bien écoute, je te remercie énormément pour ta participation. C'était très intéressant.
Merci à toi Franck de m'avoir permis de d'être super excité à papoter ma vie.
Je pense que ça fera plaisir à beaucoup de gens d'entendre ces propos sur le concept art.
J'espère, j'espère. Et oui, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, envoyez-moi un message. J'essaierai de répondre plus vite. Je répondrai, mais
Sous
peut-être
quelques
pas.
semaines.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais oui, toujours ouverte à donner des conseils.
Ça marche. Eh bien, je te remercie beaucoup.
Merci à toi, Franck.
Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Meet the Dev. Évidemment, je tiens à remercier encore une fois Émilie pour sa participation à l'émission et cet échange extrêmement intéressant. Comme vous avez pu l'entendre, on a couvert pas mal de sujets différents, mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes à récupérer, pas mal de petites informations par-ci par-là. Évidemment, tous les liens dont elle a parlé sont dans la description. Je tiens à dire que c'est elle qui me les a donnés, hein, c'est important. Elle m'a gagné beaucoup de temps de travail. Donc n'hésitez pas à regarder un peu tout ce qu'elle vous a recommandé. N'hésitez pas également à suivre Meet the Dev sur Facebook, sur Twitter, et à mettre des 5 étoiles sur iTunes et sur vos applications de podcast favoris. Le référencement est aussi un bon moyen d'éparpiller et de mettre aux oreilles d'autrui les histoires de toutes ces personnes et faire un peu connaître les gens qui sont derrière le jeu vidéo. C'est toujours l'objectif de ce podcast. Donc voilà, je vous remercie énormément pour avoir écouté ce nouvel épisode, on se retrouve bientôt pour un troisième épisode de Meet the Dev. À bientôt.